I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Plus de 2 Français sur 10 vont se déplacer dans les champs ou les grands espaces dans le but d'écouter de la musique en live. L'été, c'est la période des festivals. Et dans ce domaine, la France est prolifique. De Wheel of Green en passant par Solidays, on compte un peu moins de 2500 festivals en France, dont 1800 dans les musiques actuelles. Mais derrière ces grands événements se cache une lutte de survie. Aujourd'hui, dans Business of Music, nous allons donc expliquer ce qui se cache derrière ces festivals qui attirent des centaines de milliers de spectateurs. Je m'appelle Jean-Philippe Louis et vous écoutez BOM pour Business of Music, le podcast des échos qui décrypte l'économie de la musique. Dans les festivals, la concurrence et la bataille de tête d'affiche est intense sur fond de hausse des cachets. En juin dernier, la première édition du festival Val de Roc, devant accueillir des têtes d'affiche comme les Négresses Vertes ou Chaka Ponk, a été annulée à 72 heures de son lancement. Signe de la difficulté et du contexte ultra-concurrentiel du secteur.
Val de Roc Festival, du 28 au 30 juin, avec Chaka Ponk, M, Deluxe, Jimmy Somerville et bien d'autres. Pour sa première édition, Val de Roc vous propose une immersion dans la pop culture 80s.
Bonjour Martine Robert, vous êtes journaliste culture et mécénat aux Échos. Que s'est-il passé avec le festival Val de Roc?
Alors le festival Val de Roc, c'est pour moi la fausse bonne idée. Au départ, une collectivité locale qui a envie de faire du marketing territorial, une collectivité locale qui est près de Disney, donc qui a du mal à exister en elle-même, et qui se dit « on va faire un événement culturel marquant ». Et cet événement culturel, ben, ça sera un festival, parce que le festival, ça plaît aux jeunes, ça plaît aux familles, c'est consensuel, c'est du vivre ensemble, c'est du lien social. Sauf que les collectivités locales ne sont pas des spécialistes des festivals et elles se sont orientées vers des gens du tissu associatif local qui, en fait, n'avaient pas une grande expérience eux-mêmes des festivals. Donc, ce qui devait arriver est arrivé, d'autant plus qu'ils misaient gros tout de suite. Ils n'ont pas voulu d'un festival qui montait en puissance. Ils ont voulu frapper fort tout de suite.
Ça veut dire qu'ils ont visé trop haut, trop vite?
Alors, ils ont visé des têtes d'affiche. Ils ont visé des fréquentations de l'ordre de 30 000 euros par soir. On est dans une jauge à la Rock en Seine qui est installée quand même depuis un bout de temps. Donc, ça veut dire aussi des gros cachets. La collectivité, c'est une communauté d'agglomération, hein, Val d'Europe. Donc, elle a accepté de donner au départ une subvention de 600 000 euros pour un festival qui visait un budget de 3,6 millions, hein, pour avoir justement des moyens financiers d'avoir des gros artistes. Et puis, le manque d'expérience des organisateurs a fait que... Il n'y avait pas une ligne cohérente, une ligne artistique cohérente. Il y avait un nom qui prêtait à confusion, puisqu'ils ont fait un jeu de mots entre le rock et Val d'Europe pour faire Val de Roc. Les gens ont fait une confusion avec Rock en Seine. Et en définitive, ils avaient vendu 12 000 billets à 3 jours du festival.
Alors, donc, ils le visaient 30 000, c'est ça à peu près?
30 000 par soir, c'est-à-dire 90 000. Ouais. Donc du coup, panique à bord, ils ont tout arrêté à 3 jours, ce qui est juste la catastrophe absolue. Quoi. Pour les deniers publics, hein, les 600 000 euros de subvention, pour les organisateurs, pour l'image des festivals en général, c'est jamais bon. Et puis bien sûr pour la communauté d'agglomération.
Une catastrophe. L'épisode Val de Roc est révélateur. Organiser un festival de musique n'est pas chose aisée, surtout ces dernières années.
Bonjour, voilà.
On est posé des questions en marchant. Héloïse, voilà. On continue.
Bonjour Jean-Philippe.
Je suis Grégoire Cagna, je suis bénévole sur Solidays. Et alors à J-3, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'on attend? On espère avoir assez d'énergie et assez de temps pour finir tout le barriérage, tout le canissage. Les scènes sont montées, ou en tout cas en grande partie, mais il reste quand même pas mal de barriérages, de la déco, du mobilier installé. Là, tout le monde est sur le pont, les équipes bénévoles, les équipes de production, les salariés de Solidarité SIDA. À part la météo, qui pourrait nous jouer un tour, ça, mais pour le coup, on n'a pas la main là-dessus. Ouais. Sinon, tout le reste, les équipes de production sont assez rodées pour, je pense, avoir tout prévu. Donc normalement, vendredi, on doit pouvoir ouvrir au public à l'heure. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Une journée classique sur le montage de Solidays, ça démarre vers 8h, 8h30 et ça se termine vers 18h. Évidemment, à J-2, J-3, il n'est pas impossible qu'on fasse une petite nocturne. On va dîner et puis on se retrouve pour un dernier coup de bourre sur le chantier. Et voilà, pour essayer d'avoir un petit peu d'avance peut-être, ce serait bien.
En fait, c'est ça, c'est qu'après, il faut rendre l'espace
clean.
Clean.
Ultra clean, c'est ça. Une semaine pour faire ça.
C'est un peu, c'est pas chez nous, on vient, et puis après, il faut tout...
Après, ça va, on est plutôt en bon terme, parce que ça fait 21 ans que ça se passe bien, mais ouais, on est censé rendre ça clean. En plus, il y a plusieurs occupants. Parce qu'il y a Roland-Garros qui a encore son parking ici quand on arrive début juin.
Ouais.
Il y a France Gallo qui fait toujours des courses pendant le montage. Là, il n'y en a plus depuis dimanche, mais il y en avait une dernière dimanche. Je suis bénévole à Solidarité SIDA depuis 15 ans, et là, c'est mon 16e Solidays.
Est-ce que vous avez vu des changements? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à il y a 15 ans?
Oui, on occupe, je pense, l'hippodrome de manière un petit peu plus optimisée. On a réussi à agrandir notre jauge d'accueil des festivaliers. Quand je suis arrivé, il y avait 150 000 festivaliers sur les 3 jours. Et l'année dernière, on a accueilli 212 000 personnes. Donc, on a réussi peut-être à pousser un petit peu les murs, je ne sais pas. Mais on a optimisé, évidemment. La déco est chaque année... plus belle que les années précédentes. Les chartes graphiques sont vraiment cool. Et puis il y a quelques scènes qui se sont ajoutées, comme il y a la scène radar qui est dévolue au hip-hop, il y a la scène boombox pour l'électro, qui sont deux scènes qui sont arrivées l'an dernier.
C'est qu'en fonction même de l'évolution même des musiques, du numérique, etc., il y a des scènes qui sont ajoutées.
Exactement, ouais, voilà, radar et boombox, c'est justement deux scènes qui sont allées avec l'air du temps, en fait, qui sont venues avec l'air du temps, parce que le hip-hop et la techno, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui.
En 2018, sur Europe 1, alors que Solidays fêtait ses 20 ans, voici ce que disait Luc Barouet, président et fondateur de Solidarité SIDA.
Un dernier mot, Luc Barouet, sur l'avenir de Solidays. La pérennité du festival n'est pas assurée.
Non, pas du tout. Soyons clairs, cette 20e édition, heureusement, les 20 ans ont un effet booster, bien évidemment. Et puis les artistes ont envie d'y participer, pour ceux qui se sont déjà passés notamment. Mais l'avenir est incertain, les contraintes autour de nous sont de plus en plus compliquées, notamment financièrement, et donc il va nous falloir être encore plus performants dans le futur si on veut faire en sorte que cet outil, ce petit ovni culturel et solidaire puisse perdurer dans les années à venir.
Surcoût de sécurité, pouvoir d'achat en baisse, mais aussi surtout subventions en baisse. Récemment, trop dépendant des subventions, le Festival de musique classique d'Île-de-France n'a pas résisté à la coupe de 1 million d'euros appliquée par l'administration de la nouvelle présidente de région, Valérie Pécresse. Le festival avait perduré pendant près de 40 ans pourtant. Martine Robert, est-ce qu'on gagne à créer un festival?
Alors on ne gagne pas forcément de l'argent, d'ailleurs les grands groupes sont prêts même à en perdre pour pénétrer un marché parfois. Il y en a qui n'ont pas le choix. Hein. Tous ceux qui sont associatifs, par exemple, il faut au moins qu'ils équilibrent. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Par exemple, je crois que c'est les Vieilles Charrues. En dessous de 95% de taux de remplissage, ils perdent de l'argent. Donc la pression, elle est quand même forte. Après, on sait, à l'étranger, il y a des festivals qui rapportent beaucoup, hein, comme Coachella. Il y a vraiment tous les cas de figure. Les corrigies ont été très mal. Hein. Il a fallu que vraiment les collectivités locales se portent à leur secours parce qu'ils étaient très déficitaires à un moment donné. Pourtant, c'est les corrigies d'Orange. Pourtant, ça existe depuis longtemps. Pourtant, il y a des retransmissions à la télé de certains de leurs spectacles. C'est globalement quand même des économies qui ne sont pas faciles. Après, il faut avoir l'intelligence de ne pas... être trop gourmand aussi, avoir des têtes d'affiches trop coûteuses, parce que oui, il y a quand même une surenchère des cachets, ça c'est une certitude. Par exemple, aux Eurocaennes, ils ne veulent pas mettre plus de 500 000 euros pour un cachet d'artiste, ce qui est déjà énorme pour un artiste.
Un cachet, ça tourne autour de combien à peu près parce que 500 000 euros, ça semble déjà énorme.
Alors, aux Eurocaennes, ça va du SMIC à 500 000 euros.
D'accord.
Par contre, au Hellfest, ça peut atteindre 1 million d'euros.
On est pourtant sur des chiffres énormes.
Alors, par exemple, les Franco ou Bourges, on est sur des budgets de 4,5 millions à peu près. Si on est sur le Hellfest, on est à 20 millions. Et si on est sur les Eurokéennes, c'est environ 8,4, Rock en scène 7. Le Download, le Lollapalooza ou les Vieilles Charrues, c'est plus que 10 millions d'euros.
Désormais, les festivals doivent jongler avec la montée de la musique urbaine. Du coup, certains festivals perdent en originalité. Les grands organisateurs se partagent les stars à coups de surenchères de cachets et parfois même ça part au clash. Comme en 2018, année où les deux géants AEJ, organisant Rock en scène, et Live Nation, organisant par exemple Lollapalooza, se sont affrontés en public.
Alors l'année dernière, Rock en scène a voulu booker un artiste Live Nation, signé par Live Nation, qui s'appelle Kendrick Lamar, voilà, qui est la coqueluche de nombreux jeunes aujourd'hui. Et Live Nation n'a pas apprécié la manière dont Rock en scène avait approché l'artiste, pour schématiser. Et donc, ils ont décidé de faire... Un festival aux mêmes dates que Rock en scène, dans un lieu indoor, la Paris La Défense Arena. Et ce qui fait que finalement, il y a eu des victimes des deux côtés, parce que Rock en scène a dû rechanger son affiche et a fait moins d'entrées que prévu. Mmh. Et Live Nation a eu quand même un peu de mal à remplir sa Paris La Défense Arena avec cet artiste, parce que voilà, les deux événements étaient exactement aux mêmes dates, quoi.
Pourquoi un festival comme Val de Rock ne fonctionne pas et pourquoi d'autres fonctionnent? Qu'est-ce qui fait qu'un festival marche? Quels sont les bons ingrédients?
Alors d'abord, on peut constater que quand même en France, on a un foisonnement. On dit souvent que la France est une terre de festivals. Alors moi, personnellement, je pense que c'est aussi connecté finalement à la richesse de notre patrimoine et de nos sites naturels, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui fonctionnent dans des cadres aussi idylliques. Rock en scène est au parc de Saint-Cloud, le Main Square est dans la citadelle d'Arras, il y a des festivals de musique classique à Glanum, il y a des festivals de jazz dans le théâtre antique de Vienne, il y a les chorégies au théâtre antique d'Orange. Enfin, je pense qu'on a des décors qui sont exceptionnels. Et comme les festivals, ça marche parce que ce sont des parenthèses exceptionnelles, ce sont des moments festifs, ce sont des moments qui décloisonnent les codes. Par exemple, il est beaucoup plus facile d'aller sur de la musique classique sur un festival, comme par exemple la Folle Journée de Nantes où on a des petits concerts classiques à tous les coins de rue, que dans une salle de concert. Donc les ingrédients, c'est un beau décor, une ligne artistique. Un beau décor ou pas d'ailleurs, parce que s'il y a une esthétique musicale très affirmée, comme le Hellfest, les gens vont traverser toute la France pour y aller. Mais hormis ce cas de figure, il faut que l'expérience globale soit riche, donc un cadre sympathique, bien mangé, avec plein de food trucks différents, parfois une garderie pour les enfants, parfois l'occasion de rencontrer des associations humanitaires intéressantes, celle de l'abbé Pierre est souvent à Rock en scène, par exemple, mais aussi aux Francofolies, et puis une ligne artistique quand même claire, c'est ce qui a manqué à Val de Roc. Comme je le disais,
la bataille d'artistes, notamment en musiques urbaines, se multiplie. La concurrence augmente les cachets qui deviennent trop chers pour les petits festivals. Et pourtant, il y a des festivals qui tirent leur épingle du jeu en allant à rebours. Eux s'éloignent de la bataille des artistes en proposant de la musique de niche. C'est le cas du festival Hellfest. Bonjour Caroline Davout, vous êtes chef adjointe au service photo des Échos. Vous avez rédigé une enquête dans le journal avec pour titre « Festival Hellfest, le bon filon du métal ». En quoi c'est un bon filon, le métal ?
Alors d'abord, sans doute par sa programmation musicale, puisqu'on est quand même sur un festival de métal, une proposition que personne d'autre ne fait. Et dans sa programmation, ce qui est super intéressant avec ce festival, c'est qu'ils ont une programmation très large dans cette grande famille du métal. Le métal, c'est quoi? C'est plein de choses, en fait. C'est plein de courants musicaux différents, plein de familles différentes. Et le métal réussit à réunir toutes ces familles au sein d'un même festival. Proposer autant un petit groupe de black metal norvégien inconnu que une grande tête d'affiche comme Iron Maiden. Donc toujours le même directeur depuis le début, Benjamin Barbeau, qui a donc au début créé un festival près du Mans qui s'appelait le Fury Fest en 2002. Il a réussi à faire 4 éditions qui fonctionnaient bien, ça grandissait tranquillement, jusqu'en 2005 où en fait des associés sont partis avec la caisse des recettes. Donc, patatras, c'est tombé à l'eau. Mais il s'est pas laissé abattre. Il est revenu l'année d'après. Alors, il est revenu dans sa ville et il a monté le Hellfest. Alors, il a un gros budget, 22 millions. Donc, au-dessus des Vieilles Charrues, qui est pourtant le plus gros festival français, qui lui est autour de 17 millions. Et c'est toujours grâce à ce statut qui permet de redistribuer tous ses bénéfices. Ils ont aussi une grande force, c'est qu'ils vendent en fait tous leurs billets en avance, sans avoir annoncé un groupe. Presque un an à l'avance, 8 à 9 mois avant, tout part cette année en quelques heures en fait. Donc ça, c'est déjà une trésorerie importante qui leur permet d'avoir une visibilité. De plus, ils ont énormément de bénéfices sur la vente de boissons, de bière spécifiquement, on ne peut pas se mentir, et puis aussi sur le merchandising. Donc ils ont des choses qui leur permettent d'avoir une bonne trésorerie et d'avoir une visibilité chaque année sur comment ils vont pouvoir dépenser leur argent.
Quels sont les grands dangers qui pèsent sur les festivals ?
Alors effectivement, il y a une surenchère de cachets, donc voilà, tout le monde ne pourra pas se les offrir. Est-ce qu'il va y avoir une cannibalisation des gros par les petits ? Moi, je ne le pense pas. Je pense honnêtement qu'il y a de la place pour peut-être pas tout le monde, mais pour beaucoup. Je pense aussi que la concurrence, si elle présente des risques de concentration, donc de moindre diversité, elle a aussi des avantages. La filière, elle s'est énormément professionnalisée. Elle s'est énormément professionnalisée, donc elle est globalement un peu plus aguerrie. Après, bien entendu, un festival, ça se joue sur un jour, deux jours, trois jours. Donc une période de temps très courte. Et ça, c'est quelque chose qui restera. On n'est jamais à l'abri d'une météo capricieuse. Il y a même des festivals qui ont plié bagages à cause de ça. Il y avait notamment les Méditerranéennes à Port-le-Cat. Et c'était un spot beaucoup trop vanté. D'ailleurs, c'est un spot de windsurf et ça s'est arrêté un peu à cause de ça parce que finalement, il y avait des problèmes météo récurrents.
C'est le plus gros danger qui pèse au final, c'est la météo, c'est le lieu, l'endroit.
C'est l'un des dangers, c'est sûr.
Merci beaucoup, Martine Robert.
La France est bien une terre de festivals, mais souvent, elle est l'affaire de petites structures. Mais le secteur tend à s'industrialiser avec l'arrivée de géants français comme Vivendi ou Lagardère. Il ne reste plus qu'à espérer que ce nouvel intérêt ne crée une cannibalisation dans le secteur. Cet épisode a été réalisé avec l'aide de Mathias Arignon. Merci de suivre Business of Music et La Story sur toutes vos plateformes de podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.